Nous retrouvons tout de suite Huguette Nadal pour votre nouveau rendez-vous hebdomadaire avec les chroniques généalogiques. Bonjour Huguette.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment réaliser son arbre généalogique.
Je vais d'abord vous expliquer comment on le commence. C'est d'abord la base.
Très bien. Alors allons-y, par le début.
Alors, je vais revenir à ma première intervention. Je vous ai dit que c'est ma petite fille qui m'avait posé une question. C'est qui m'aimait ? Alors je lui ai répondu, c'est la mère de ta mamie, c'est-à-dire moi. Et bon, alors elle me dit, et avant ? J'ai commencé donc une recherche, comme je vous ai dit. Lui expliquer le pourquoi on ne portait pas le même nom toutes les deux. Et je lui dis, maman porte comme toi le nom de ton papa car ils sont mariés. Voici comment commence ton arbre généalogique. L'arbre commence par tes racines, c'est-à-dire les ancêtres. Toi, tu es le tronc et tes parents et les grands-parents sont des grosses branches. Si on remonte encore, il y a les arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Plus on monte, plus il y a la branche. Mais d'abord, comment faire son arbre ? Il faut recueillir, si possible, auprès de ses proches encore présents, le plus d'éléments possible, et surtout le nom des cousins, des oncles, des tantes, toutes les personnes qui ont un certain âge et qui pourraient retransmettre ou raconter la vie de ses aïeux. Regardez ou récupérez les livrets de famille, les livrets militaires, les diplômes, l'avis de mariage ou de décès. Lire le courrier aussi car il indique d'où il provient et si c'est un membre de la famille qui l'envoie, situez aussi un endroit où on pourrait retrouver un de ses ancêtres. Bien souvent, on fait une recherche sur un arbre ascendant, c'est-à-dire qu'on parle de la première personne, le hein, c'est moi, par exemple, ou ma petite fille, et on monte régulièrement. Mais on peut le faire aussi de manière descendante, c'est-à-dire savoir le nom d'un arrière-arrière-grand-parent et vouloir connaître toutes les personnes issues de ce couple ou de ce personnage et savoir le nombre de cousins ou d'arrière-cousins qui sont de ce monde et qui nous entourent et que, bien sûr, bien souvent, nous ne connaissons pas. Il faut savoir aussi que la loi oblige à une carence de 100 ans pour préserver les droits éventuels d'héritage. Alors qu'est-ce que c'est ce droit de 100 ans ? Les archives publiques, comme les registres d'État, naissance, mariage et décès, ne sont pas toutes immédiatement accessibles. Pour protéger les personnes encore en vie, la loi impose des délais de commutabilité. Pour les naissances et les mariages, elles sont consultables après 75 ans. Mais depuis 2008, ce délai est passé à 100 ans. Si l'acte mentionne des informations sensibles, comme une adoption, une reconnaissance d'enfant, etc., etc. Les recensements de population, par exemple, sont accessibles après 75 ans. Les dossiers judiciaires ou notoriaux, le délai est variable, souvent 100 ans. Et les dossiers médicaux, le délai est de 120 ans, après la naissance de la personne. Conséquence pour nous, les généalogistes. Cela signifie qu'on peut tracer librement ses ancêtres jusqu'aux arrière-grands-parents, souvent nés avant 1925 environ. Mais pour les générations plus récentes, parents et grands-parents, il faut demander directement les documents en mairie et souvent justifier du lien de parenté, soit par la présentation d'une pièce, sa carte d'identité ou un livret familial. Voilà. La règle des 100 ans protège les personnes vivantes et leurs données personnelles. En généalogie, on peut donc travailler librement sur les ancêtres anciens, mais il faut être plus prudent et respecter la loi des générations récentes. Passé ce délai, plusieurs manières permettent de rechercher sa lignée et on établit son arbre par le numéro SOSA. Alors voilà, qu'est-ce que ce numéro SOSA ?
C'est ce que vous nous révélerez la semaine prochaine. Merci beaucoup, Huguette.
Merci.
Liberté FM, c'est votre radio locale.